RFI, 22h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. Harvard porte plainte. Hier, l'administration Trump avait interdit à la prestigieuse université américaine d'accueillir des étudiants étrangers. Et Harvard obtient un sursis. Un tribunal américain a bloqué temporairement la décision de Donald Trump. Donald Trump qui parle encore droit de douane et menace d'imposer 50% de droits sur les produits venant de l'Union européenne. Une entreprise est-elle aussi sur la sellette? Et c'est une première, il s'agit d'Apple, une entreprise pourtant américaine. Attaque au couteau en Allemagne. Selon les médias allemands, 17 personnes ont été blessées dans la gare centrale de Hambourg, dans le nord du pays. Une suspecte a été arrêtée. Et puis on a appris la mort du célèbre photographe franco-brésilien Sebastião Salgado. Il avait 81 ans. L'Académie des Beaux-Arts française rend hommage à un grand témoin de la condition humaine et de l'état de la planète. Harvard contre-attaque. L'administration Trump a interdit hier à la prestigieuse université américaine d'accueillir des étudiants étrangers. Plus du quart de ces étudiants sont concernés. En réponse, Harvard a porté plainte, parlant d'un dernier acte de représailles mené contre l'université et son droit au premier amendement qui protège la liberté d'expression. Harvard qui vient d'obtenir le blocage de la décision gouvernementale. À Washington, la correspondance de Guillaume Nodin.
La juge fédérale du Massachusetts, où se trouve Harvard, s'est rendue aux arguments de l'université, au moins jusqu'au début de l'examen de l'affaire sur le fond. D'un trait de plume et sans aucune justification juridique, le gouvernement cherche à effacer un quart des étudiants de Harvard, est-il écrit dans la requête en suspension validée. Et s'il a été déposé en urgence, c'est parce que la décision de l'exécutif était censée s'appliquer immédiatement. Elle aurait des conséquences lourdes pour l'université et ses étudiants étrangers qui sont environ 7000 sur le campus. Ils représentent une ressource financière importante, puisqu'ils payent des droits d'inscription élevés. Ceux qui sont déjà inscrits n'auraient le choix que de se faire transférer dans une autre université ou de perdre leur statut légal aux États-Unis et donc risquer l'expulsion. C'est d'ailleurs aussi le cas pour les professeurs étrangers en visite. Ce serait donc des conséquences académiques également très lourdes. L'administration Trump le sait, comme elle sait que s'en prendre aux universités élitistes de la côte Est est payant politiquement avec sa base électorale. Elle reproche à Harvard de laisser prospérer des activités antisémites et anti-américaines sur son campus. Elle lui reproche également son refus de fournir des informations sur ses étudiants étrangers des 5 dernières années. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Par ailleurs, Donald Trump menace à nouveau d'augmenter les droits de douane. Il cible l'Union européenne. Je recommande d'imposer 50% de droits de douane sur l'Union européenne, ce qui a immédiatement tiré les bourses vers le bas. En Europe, elles ferment ce soir en forte baisse. Et, pour la première fois, le président américain s'en prend aussi à une entreprise, Apple, une entreprise pourtant américaine, qu'il menace d'au moins 25% de surtaxe si elle ne fabrique pas ses iPhones aux États-Unis. Début d'un échange record de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Au total, 1000 prisonniers doivent être échangés de part et d'autre. Pour le moment, les deux camps ont annoncé avoir récupéré 390 personnes chacun, militaires et civils. Un échange commenté par le président américain sur son réseau Truth Social. Félicitations, cela pourrait conduire à quelque chose d'énorme. En parlant de prisonniers, le parquet général de l'Ukraine accuse l'armée russe d'avoir exécuté 270 prisonniers de guerre ukrainiens depuis le début de l'invasion en 2022. Et il affirme que le nombre de personnes exécutées, de prisonniers exécutés, est monté en flèche depuis l'an dernier. Les Palestiniens de Gaza subissent aujourd'hui la période peut-être la plus cruelle de ce cruel conflit. C'est ce qu'a dit aujourd'hui Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui décrit une population affamée et constamment déplacée. Le Conseil de l'Europe parle de son côté d'actes qui vont dans le sens d'un nettoyage ethnique et d'un génocide. Alors aujourd'hui, dans ce territoire de Gaza, quelle place reste-t-il pour la population? Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, l'OCHA, il ne reste plus aux 2 millions de civils que 20% de Gaza où s'entasser. Écoutez Tamara Al-Rifai, la porte-parole de l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.
Ce que nos équipes remarquent sur le terrain à Gaza, c'est un mouvement de population forcé et continu depuis le début de cette guerre. On parle aujourd'hui de plus de 80% du territoire de la bande de Gaza se trouvant sous le statut de zone militaire ou zone de combat. Ceci veut dire que les habitants de ces 80% de la population de Gaza ont été forcés de partir de chez eux. Ce sont des déplacements forcés. Et ce sont des déplacements multiples, car en moyenne, un Gazaoui s'est vu forcé d'être déplacé depuis le début de la guerre entre 6 et 19 fois. Avec chaque déplacement, un Gazaoui part avec encore moins de possession. Donc les Gazaouis ont tout perdu. Au bout du 19e déplacement, on n'en emporte rien. On emporte à peine ce qui reste de sa famille.
La porte-parole de l'UNRWA, Tamara Al-Rifa, est jointe par Alice Froussard. En Turquie, Recep Tayyip Erdogan décrète une décennie de la famille de 2026 à 2035 pour lutter contre la dénatalité. Le taux de natalité en Turquie a chuté à 1,48%, avec à la clé de la part du président turc un appel à toutes les familles à faire au moins 3 enfants. Recep Tayyip Erdogan a aussi, une fois de plus, fustigé ce qu'il a appelé la perversion LGBT. Les personnes homosexuelles et transgenres étaient devenues ses cibles récurrentes lors de la campagne de 2023. En Allemagne, dans le Nord, attaque au couteau dans la gare centrale de Hambourg. Selon les médias allemands, 17 personnes ont été blessées. Plusieurs se trouvent dans un état critique. Une suspecte a été arrêtée par la police. En France, Bruno Retailleau est donc devenu le chef du parti Les Républicains. Il a été élu très largement, avec un effet immédiatement visible dans l'opinion, puisque pour la première fois, le ministre de l'Intérieur est devant l'ex-premier ministre Édouard Philippe dans une enquête de popularité Odoxa. Raphaël Delvolvé.
Les courbes se croisent et désormais avec 51% de bonnes opinions, le ministre de l'Intérieur, dont la popularité ne cesse de monter depuis son entrée au gouvernement, dépasse de 3 points l'ancien Premier ministre. Bruno Retailleau semble donc bénéficier d'un effet booster après son élection probante à la tête des LR, elle-même due en grande partie à sa forte exposition médiatique au ministère de l'Intérieur. Dans son discours de victoire de dimanche, le ministre chef de parti se gardait pourtant bien d'évoquer une candidature à la présidentielle, appelant prudemment à d'abord élaborer un projet et faire émerger des idées nouvelles. Il le sait, son espace politique, allant du centre droit à la droite, est ultra concurrentiel en vue de 2027. Outre Édouard Philippe, déjà déclaré, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, mais aussi Xavier Bertrand se positionnent. Bruno Retailleau semble en tout cas avoir enclenché une dynamique dans l'opinion. Reste à la maintenir pour envisager une candidature crédible. 2 ans, c'est court, mais aussi très long.
En RDC, l'ancien président congolais Joseph Kabila annonce ce soir dans un discours qu'il se rendra à Goma dans les prochains jours. Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Goma, contrôlée par les rebelles de l'AFC-M23 depuis plusieurs mois. Au lendemain de la levée de son immunité parlementaire, Joseph Kabila dénonce des décisions arbitraires prises par Kinshasa à son encontre. Et il critique son successeur sans détour. La dictature doit prendre fin, a-t-il notamment déclaré. Un mot de sport maintenant. Cher tennis, il est temps de te dire au revoir. C'est par ce préambule que Caroline Garcia a annoncé ce matin sur les réseaux sociaux que le tournoi de Roland-Garros qui débute ce dimanche sera son dernier. L'ancienne numéro 1 française arrêtera en effet sa carrière dans les semaines qui viennent. Elle n'a pas donné de date précise. Ce sera alors la fin d'un parcours au cours duquel elle aura alterné le meilleur comme le pire. Éric Mamrut.
C'est en 2011 à Roland-Garros que Caroline Garcia se révèle au monde du tennis. Propulsée à 17 ans sur le court central, elle manque de peu de battre la star russe Maria Sharapova. Séduite par la fougue de la jeune lyonnaise, Andy Murray annonce alors « cette fille sera numéro 1 mondial ». Le champion écossais ne verra pas sa prédiction se réaliser, même si Caroline Garcia atteindra le 4e rang à 2 reprises. En 2017 et en 2022, sa grande année conclut par un sacre au Masters féminin. L'un des 11 titres qu'elle a glané en simple durant sa carrière. La native de Poissy remporta également Roland-Garros à 2 reprises en double, mais aussi la Fed Cup avec l'équipe de France. Beaucoup de hauts donc, mais beaucoup de bas également pour celle qui était alors la leader incontestée du tennis français. Avec en filigrane beaucoup de souffrances, comme elle l'a révélé récemment dans une longue confession. Des blessures, au dos et à l'épaule, mais aussi un rapport toxique avec le tennis, avec une pression et une exigence envers elle-même qui l'a consumée mentalement. Après un premier break de quelques mois opéré en septembre dernier, celle qui est aujourd'hui 145e mondiale décide finalement à 31 ans, je cite, de passer à autre chose dans quelques semaines, car mon corps et mes aspirations personnelles me le demandent.
Caroline Garcia qui pour son dernier Roland-Garros s'affrontera au premier tour l'américaine Bernarda Pera. À Cannes, demain, ce sera le palmarès, la Palme d'Or, entre autres. 2 derniers films ont été présentés en compétition ce vendredi. Jeune mère, des réalisateurs belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui ont déjà reçu 2 Palmes d'Or, et Mastermind de l'américaine Kelly Reichardt. Et puis, l'immense photographe franco-brésilien Sebastião Salgado est décédé à l'âge de 81 ans. Sebastião Salgado, connu pour ses grandes photos noires et blancs de conflits ou de la forêt amazonienne. L'Académie des Beaux-Arts françaises, dont il était membre, parle d'un grand témoin de la condition humaine et de l'état de la planète, du Rwanda au Guatemala, en passant par l'Indonésie et le Bangladesh. RFI, 22h10 à Paris.